Alors cette fois officiellement, bonjour à vous qui êtes avec moi ce matin. C'est une joie pour moi d'être avec vous. Bonjour à ceux qui me suivent sur Zoom. Vous avez des beaux visages, des bons sourires, c'est super. Puis bonjour à ceux qui m'écouteront ces prochaines semaines sur YouTube. Qui peut me dire franchement si cette nuit, il a réussi à dormir une heure de plus parce qu'on nous a accordé une heure de plus? Personne lève la main. Hein? Ah, Luc, ouais, bravo. On a besoin d'un médecin, là. Il est à peu près 10h30 ce matin, à nos montres, mais dans notre tête, c'est 11h30. C'est peut-être bientôt l'heure de manger. Donc, ça veut dire une nouvelle adaptation qui nous est demandée. Comme si ça ne suffisait pas. Hein? Mais j'aimerais vous dire ce matin que Dieu reste debout. Que Dieu, lui, il est en mouvement, qu'il est attentif, il est prêt à venir à notre secours. Ses promesses vont se réaliser. Qu'il est fidèle et ce qu'il a commencé, il va le terminer. Ce qu'il a commencé en vous, ce qu'il a commencé dans le monde, il n'est pas dépassé. Il va aller jusqu'au bout et son plan va s'accomplir. Dans l'Apocalypse, nous lisons une vision que l'apôtre Jean a eu sur l'île Patmos. Cela se passe environ 30 ans après Pentecôte. C'est Jean qui le voit. C'est Jean qui a passé 3 ans de sa vie avec Jésus dans le pays d'Israël. C'est Jean qui a été témoin de la mort de Jésus sur la croix. C'est Jean qui a vu ressusciter Jésus. Donc Jean, 30 ans plus tard, il voit en vision, il voit Jésus en train d'être adoré par une foule de gens de tout âge, de différentes nations, de différentes langues. Il n'a pas vu une église en chute libre, il n'a pas vu une église craintive, un petit nombre de croyants. Il a vu, il a entendu une foule avec des anges qui crient « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône ». Ça va se réaliser. J'ai hâte de vivre dans cette salle et partout ailleurs un temps de louange avec nos amis amérindiens. Nos amis amérindiens, Atikamekw, entre autres, et nous. Je rêve du moment où chacun pourra être présent dans le même lieu, sans peur d'être jugé, sans peur de ne pas être compris. Parce que dans le royaume de Dieu, on le goûte déjà, et on doit encore faire mieux, le racisme n'existera plus. Au contraire, ce sera la joie de partager. Ce sera le plaisir d'être en famille. C'est l'amour de Dieu en action. Ce que je vis les dimanches matins quand je suis là avec vous me donne le goût d'en vouloir plus. Il y a trop de personnes que j'aime qui ne sont encore pas reconnectées à Dieu. Je rêve de voir tous ces amis, dont le peuple Atikamekw, louer Dieu avec moi. Il y a un prix à vivre pour vivre cette adoration internationale. Je vous l'ai dit, ça va se réaliser. Parce que Jésus dit, ça s'accomplit. C'est le même principe que si un jour je sème des carottes, je vais récolter des carottes et donc des patates. Ce que Dieu dit, ça va se faire. C'est le refus du statu quo. C'est le prix à payer. C'est renoncer à l'indifférence. C'est être préoccupé par ce qui touche le cœur de Dieu. C'est un petit peu problème de lumière, excusez-moi. Ces derniers dimanches, Luc nous a fait connaître le capitaine qui gouverne le monde. Il nous a rappelé que le vaccin existe déjà. Le vaccin se nomme Jésus. Et recevoir Jésus dans nos vies nous fait entrer dans la vie éternelle. Michaël nous a encouragés à faire des disciples, à partager le vaccin Jésus en découvrant la beauté de Dieu dans chaque personne, à être rempli du Saint-Esprit pour raconter l'histoire avec un grand H. Alors écoutons encore une fois ces messages ces dernières semaines, si vous voulez en savoir plus. Aujourd'hui, le titre de mon message, « Lève-toi et brille. C'est un verset du prophète Ésaïe. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ésaïe 60, verset 1. Donc je vais vous parler de différents personnages bibliques ce matin. Vous le savez que depuis plusieurs semaines, notre série s'appelle actuellement « En avant » et non « Recul » et non « Fait du surplace » et non « Tourne en rond ». Comment des hommes, des femmes ont-ils décidé d'avancer alors que les circonstances les appelaient à rester tranquilles? C'est la question que je me suis posée, que je vous pose, que j'espère à la fin on va pouvoir se lever tous ensemble. Mon premier personnage se nomme Abraham. Genèse 12. Dieu l'appelle. Quitte ton pays. Prends ta famille. Deviens une source de bénédiction. Révèle au monde qui je suis. Abraham fait le choix de partir avec sa famille, ses biens, vers l'inconnu. Il refuse de préserver, je dirais, la sécurité de sa vie quotidienne. Son quotidien routinier. Il voyage vers l'incertitude, sous la direction de Dieu, avec comme seule assurance la promesse et la bénédiction de Dieu. Il n'aurait jamais pu imaginer qu'obéir à l'appel de Dieu, de mettre sa confiance en l'Éternel, ait un impact extraordinaire sur le reste du monde, sur l'histoire du monde. On tourne les pages de notre Bible, les années se passent, on arrive au chapitre 18 du livre de Genèse. La situation financière d'Abraham est bonne, même excellente. Mais avec Sarah, ils n'ont toujours pas d'enfant. Avoir un enfant, c'était la promesse de Dieu. C'était l'assurance que Dieu avait bien parlé. Quitte ton pays, deviens une bénédiction au travers de tes enfants. Abraham, en ayant un enfant, il savait qu'il avait fait le bon choix de faire confiance. Mais là, les enfants ne sont toujours pas là. Assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il reste en alerte. Il réfléchit. La Bible ne le dit pas, mais moi je lis ces lignes comme Abraham prie, fait son culte personnel, pose des questions à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Je vais bien, mais il manque quelqu'un là. L'Éternel se montre à Abraham. Et j'aime la réponse d'Abraham, Genèse 18, on va le lire. Abraham lève les yeux et voit trois hommes debout, non loin de lui. Il lève les yeux. Il court à leur rencontre pour les inviter. Quand on lève les yeux, on met de côté nos propres besoins. On regarde ailleurs que son nombril. Qu'est-ce qui ne va pas? Abraham répond aux besoins de ces étrangers. Il ne les connaît pas. Ces gens de passage, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partager son repas et une longue partie de sa journée, peut-être même plus. Pour honorer ses visiteurs, il ne va pas au métro acheter des steaks pour faire un barbecue. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible nous dit, c'est impressionnant. Il fait tuer un veau dans son troupeau. Donc, il faut déjà y aller dans le troupeau, il faut le tuer, il faut le vider, etc. Ça prend du temps. Ensuite, la Bible nous dit qu'il fait faire du pain et des galettes avec 25 kilos de farine. La machine à pain n'existe pas à faire du pain. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire du pain, mais pétrir la pâte avec 2 kilos, moi je suis déjà fatigué, j'ai déjà des crampes. Mais là, c'est 25 kilos. Il leur sert du lait, qu'il ne va pas chercher au frigo. Il faut les tirer à la vache. Il leur sert du fromage. Qu'est-ce qu'a fait Abraham? Je dirais qu'il a renoncé à son programme. En quelque sorte, il a mouru à lui-même. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Il est mort à soi-même, plutôt. Parce qu'il a dû changer ce qu'il avait prévu de faire. Il s'est rendu vulnérable parce qu'il a partagé son quotidien. Quand on mange, on dit des vraies choses. On partage. Abraham s'est montré généreux. Il y a trois inconnus. Ok, c'est la coutume de l'époque de l'hospitalité. Mais quand même, tout ce qu'il a dépensé pour des personnes qu'il ne connaissait pas. Il s'est montré volontaire. Et Dieu va commencer à lui répéter à nouveau son intention. J'aime cette phrase qu'à la fin du repas, Abraham peut entendre. Abraham, j'ai entendu ta prière persévérante. Dans une année, ta femme aura un fils. Même si tu penses que c'est impossible parce que ta femme semble trop vieille, pour moi, c'est possible. Je vais honorer, je vais agir pour honorer ma parole envers toi. Ton choix de me faire confiance, de te placer sous mon regard et non de vivre avec ce que tu vois, va t'être récompensé. En donnant, on reçoit. C'est ce qu'Abraham a vécu. Il a choisi de donner et Dieu en retour s'est manifesté. Mais j'aime que l'histoire ne s'arrête pas là, que Dieu va plus loin. Il veut impliquer Abraham en partageant son cœur. L'Éternel dit, dans Genèse 18 toujours, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Dieu annonce qu'il a l'intention de détruire Sodome parce que son péché est énorme. Abraham n'est pas en train de dire « Yes, enfin, t'as raison, c'est horrible ce qui se passe. » Abraham s'arrête. Dieu, non. Non. Oui, le péché est là. Mais est-ce que je peux discuter avec toi? Est-ce que je peux prier avec toi pour que tu changes tes plans? Abraham n'est pas d'accord avec cette déclaration de Dieu. Il se met à prier, à dialoguer avec Dieu. En priant, il sait qu'il peut faire bouger le bras de Dieu. Que Dieu est prêt à modifier ses plans pour honorer la foi d'Abraham. Moi, ça me touche. Le cœur d'Abraham qui se met sur la brèche, qui se lève, qui dit non, 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 qui dit à Dieu, « Ok, t'es juste, t'es saint, et je comprends que tu veux ôter le mal. Mais avant d'agir comme ça, est-ce que je peux discuter avec toi? Est-ce que je peux prier ?» Lever les yeux permet à Dieu de se faire connaître, de révéler ses projets, de bousculer notre quotidien. Le monde, aujourd'hui, vit d'immenses défis, notre société. Régulièrement, dans les médias, on entend parler de division, de guerre civile. Nos frères et sœurs aux États-Unis ont peur cette semaine, avec les élections qui arrivent. Faut-il être républicain? Faut-il être démocrate? Dieu n'est pas là-dedans. Il est plus grand que ça. Cette nuit, dans la ville de Québec, vous avez vu probablement ce jeune homme qui a tué quelques personnes. Actuellement, quand je vous parle, il y a un ouragan terrible aux Philippines. On parle de pandémie. Alors, comme chrétiens, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais je crois que comme Abraham, nous sommes appelés à exercer un ministère d'intercession. Levons-nous, prions pour notre monde. Prions pour que notre monde se détourne et reçoive Dieu. Abraham, il est appelé le père de la foi. Sa foi en Dieu est plus grande de ce qu'il voit avec ses propres yeux. La prière nous ouvre un passage à travers l'incrédulité pour nous amener à voir Dieu en action là où tout semble impossible. Sur Zoom, mes amis, vendredi soir avec Belize, il y a un groupe extraordinaire d'intercession. Si vous voulez goûter à qui est Dieu, à ce qu'il veut faire, branchez-vous le vendredi soir. Priez pour que les choses changent. C'est notre première tâche. Quand nous choisissons de nous aligner au plan de Dieu, quand nous mettons notre foi en Dieu, nous pouvons nous attendre à être embarqués de nouvelles aventures. Par notre prière, Dieu est prêt à changer ses plans. Premier personnage. Abraham, voilà ce qu'il nous apprend. Lève-toi, brille, car la lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Comme je l'ai dit, c'est un texte d'Ésaïe. Et au temps d'Ésaïe, le peuple des Juifs est un peuple habitué à vivre dans la crainte. Ils sont dans l'obscurité. Ils semblent avoir perdu tout espoir. Il y a de l'insécurité et ça les rend aveugles au projet de Dieu. Ésaïe est en train de leur dire, l'obscurité vous entoure, mais elle ne va pas vous envelopper pour toujours. La nuit du désespoir va se terminer. Lève-toi, dit Ésaïe, sors de ta peur, laisse partir les ténèbres. Lève-toi, un jour nouveau va commencer. Accueille la vérité de Dieu qui brille, comme le lever du soleil. Regarde à moi, fais-moi confiance. Deuxième personnage qui a choisi de mettre sa confiance en Dieu. Qui a dit, et je vous pose la question, où tu iras, j'irai. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un dans la Bible? L'autre partie du verset, ton Dieu sera mon Dieu. Ruth, bravo, c'est juste. Et qui est Ruth? Ruth, c'est la bru de Naomi. Naomi, elle fait taire tous les mensonges qu'on dit sur les belles-mères. On m'a dit un jour, puis j'ai juré que je le démontrerais que ce n'est pas vrai, c'est quoi la différence entre la lune et une belle-mère? On dit que la lune, c'est un astre, la belle-mère, c'est un désastre. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Naomi, c'est une belle-mère extraordinaire. Au travers de terribles épreuves dans sa vie, elle va s'accrocher aux promesses de Dieu. Au lieu de rester dans le deuil, dans l'amertume, elle va se lever et toute une série de bénédictions va en découler. Quelques versets que je vous lis dans Ruth 1. À l'époque des juges, il eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et ses deux fils s'appelaient Malkon et Kilion. Ils étaient Éphratiens, de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Elimelech, le mari de Naomi, mourut. Elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites. L'une s'appelait Orpa, et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Malkon et Kilion moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Naomi part avec sa famille commencer une nouvelle vie, comme beaucoup d'entre nous qui ont quitté leur pays d'origine pour habiter au Québec. Certains d'entre nous l'ont fait par choix, certains d'entre nous, c'était le choix qui était imposé. Ils devaient quitter leur pays. Naomi, dans son nouveau pays, vit 3 grosses épreuves. Son mari meurt, ainsi que ses 2 fils. On a lu dans les journaux la semaine passée qu'une famille requérante, lui voulait être médecin, il commence son travail, 41 ans je crois, il décède. Il laisse sa femme qui ne sait pas le français, son fils à Montréal, panique. C'est un peu ce qu'a vécu Naomi. Dans un pays étranger, tu ne connais pas vraiment la langue, tu es là. Qu'est-ce qui m'arrive? Pour protéger les veuves de la pauvreté, Dieu avait instauré la loi du Lévirat. C'est quoi? C'est dans la situation de Ruth, c'est l'obligation imposée aux frères du mari de Ruth d'épouser Ruth. Cette loi vise à protéger la veuve de la pauvreté et à perpétuer le nom de famille. Mais malheureusement, Naomi n'a plus de fils à proposer à Ruth et à sa sœur. Elle se lève et elle dit, ben, moi je me retourne en Israël. Alors elle encourage ses belles-filles de rester dans leur pays, comme ça elles pourront se remarier. Avant d'être dans cette détresse, Naomi a eu le temps de partager sa foi avec ses brus. Je vous rappelle que Ruth, c'est une Moabite. Elle n'est pas juive. Et quand elle décide de retourner en Israël, je parle de Naomi, surprise, Ruth la suit. En 10 ans, Ruth a pu observer la foi de sa belle-famille, la foi de sa belle-maman. Ruth a pu entendre les histoires de la fidélité de Dieu. Ruth a comparé probablement ses croyances et a trouvé de l'espoir pour sa vie. Alors quand elle suit sa belle-maman, elle quitte ce qu'elle connaît sans trop savoir ce qui lui arrivera. Mais elle décide elle aussi de faire confiance en Dieu. Elle renonce à sa sécurité, la possibilité d'avoir des enfants pour s'occuper de sa belle-maman. Cette histoire nous révèle que le peuple juif n'est pas le seul peuple que Dieu aime. Depuis toujours, Dieu se choisit des hommes, des femmes pour se faire connaître, pour briller dans la noirceur. L'histoire avec Ruth ne se termine pas comme ça. Dieu bénit la fidélité de Ruth. Vous savez qu'elle deviendra l'arrière-grand-mère du roi David et qu'elle est l'ancêtre direct de Jésus. L'histoire aurait certainement été très différente si Naomi n'avait pas partagé sa foi, s'il n'avait pas décidé de se lever pour retourner dans son pays d'origine. Naomi s'est levée. Pour moi, elle avait toutes les bonnes excuses pour rester assise, pour abandonner le combat, pour se laisser envahir par le découragement. Dieu ne veut pas que Naomi survive. Dieu ne veut pas que chacun d'entre nous survive. Il invite Naomi à se lever pour une renaissance. Naomi est une femme vraie, de conviction, d'action et de compassion. Alors je nous appelle aujourd'hui à nous lever pour nos familles, pour nos belles-filles, pour nos beaux-fils, pour nos enfants. Peut-être vous êtes dans une saison où on vous montre du doigt, on vous accuse, on vous dit c'est pas ça, on vous condamne. Mais bientôt, et Dieu le promet, viendra un temps où avec votre doigt, vous montrerez qui est Dieu. Ce ne sera pas le doigt sur vous qu'on vous accuse. C'est votre doigt qui va indiquer qui est Dieu, comme Naomi. Vous pourrez montrer avec votre doigt où est votre refuge, qui est votre refuge, votre force, votre ancre dans la tempête. Voilà ce que Naomi nous apprend ce matin. Lève-toi, même si tout n'est pas facile. Fais confiance. Je vais accomplir mes promesses. Troisième personnage. Qui est la personne dans la Bible qui a pris la ferme décision de ne pas se souiller? Un peu plus difficile. Daniel, merci Belise. Daniel 1, verset 8. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Je vous rappelle qui est Daniel. Daniel a été kidnappé, emmené en captivité dans une terre étrangère, hostile, terrifiante. Il est déraciné, il est arraché de sa famille, il est emmené en exil. Il n'était qu'un adolescent lorsqu'il a subi cette traumatisante expérience. Et pourtant, il était résolu dans son cœur de ne pas se souiller, de ne pas se gaspiller, de ne pas laisser le temps s'écouler en espérant atteindre la retraite ou je ne sais pas quoi. Ben voilà, je suis étranger, mais je vais être discret là. Je vais essayer de gagner ma vie. Bouleversé, abandonné, il se retrouve captif à la cour d'un roi, et pas n'importe quel roi, c'est un roi décadent, qui lui a même volé son identité. Ce roi immoral ne veut pas qu'on l'appelle Daniel, mais Belshazzar. Ce qui signifie « belle » et non « vidéotron ». Non, « belle règne sur moi ».« Belle », c'est quoi? Les historiens racontent qu'au dieu « belle », on offrait des bébés en sacrifice. Donc, une sorte de dieu sanguinaire. Le roi commande à Daniel de se conformer entièrement au système de pensée qui régnait dans le palais et dans le pays. Donc je rappelle, un système immoral, imprégné de cruauté, de méchanceté et de débauche. Daniel, lui, c'est un croyant. Dieu a placé une mission, une vision, des valeurs différentes en Daniel. Daniel refuse que son nouveau prénom devienne son identité. Il ne laisse personne changer qui il est appelé à être, qui il représente. Il ne permet pas à personne, qu'on touche la passion qui anime sa vie. Daniel signifie « Dieu seul, mon juge ». Il sait que Dieu n'a pas dit son dernier mot, même dans une situation où tout est difficile, où tout est contre lui, où tout est hors contrôle. Daniel, lui aussi, aurait toutes les raisons d'être découragé, d'être dépressif, abattu, de se laisser envahir par un sentiment d'abandon. Mais qu'est-ce que je fais loin de chez moi? Qu'est-ce qui va m'arriver? Lui aussi, il choisit au contraire de se lever et de briller. Il refuse que le dysfonctionnement de son patron lui laisse une marque indélébile. Daniel m'inspire, lui aussi. Au lieu de subir cette pression, au lieu de se plaindre, et dans un sens, il aurait le droit, il se lève. Il révèle qui est Dieu. Il ne prend pas la couleur du lieu dans lequel il se trouve. Ce n'est pas un caméléon. Il ose être différent. Il ne vit pas dans le compromis. Et le roi l'observe. Qui est-il? Il le fait passer par différents tests. Et là, Daniel, tout d'un coup, est admis au service du roi. Oh, l'esclave, le captif, emmené loin de chez lui, se retrouve à la cour du roi. Pas mal comme promotion, non? Mais Daniel dit non, ça ne me suffit pas. Daniel continue de chercher comment ce roi puissant peut rencontrer Dieu. Daniel va persévérer dans sa foi. Il va continuer de prier. Il sait qu'un jour, il aura une occasion, une opportunité, une fenêtre pour partager sa foi. Et il ne veut pas manquer l'occasion. Il a beau être à la cour du roi, à la table du roi, il dit non, je veux plus. Seigneur, je veux plus. Si je suis jusque-là, tu m'as gardé en vie dans ce monde terrible, cruel, que je ne comprends pas tout. Mais donne-moi l'occasion de partager. Quelques années plus tard, le roi fait un rêve, je dirais même un cauchemar qui le paralyse. Alors il fait venir tous les sages, tous les magiciens du pays. Il leur donne cet ordre. Dites-moi mon rêve, puisque vous êtes des sages et des magiciens. Dites-moi ce que j'ai rêvé. Donnez-moi l'interprétation de mon rêve. Puis en cas d'échec, vous serez mis à mort. Personne ne réussit. On ne sait pas pourquoi Daniel n'a pas été convoqué. La Bible nous dit que Daniel est emmené avec tous les magiciens au peloton d'exécution. Donc Daniel sait qu'il va mourir. Puis j'aime cette petite phrase dans la Bible. C'est Daniel qui demande à l'officier, là, « Mais pourquoi le roi est-il si sévère? Qu'est-ce qu'on a fait ?» Puis l'officier lui dit, « Ben écoute, les magiciens n'ont pas réussi à trouver l'explication, donc le roi est fâché, donc tu vas t'être mis à mort, c'est simple. » Ah, waouh! Daniel dit, ok, intéressant. Je peux te poser une question là? Est-ce que tu me permets de me retirer une nuit avec mes amis? J'aimerais prier, puis j'aimerais écouter ce que Dieu dit. Et l'officier accorde, demande au roi, écoute, roi, tu peux attendre ton exécution là? Juste une nuit? Il y a Daniel qui aimerait aller prier, peut-être que. Et curieusement, le roi dit oui. Donc après une nuit blanche, de prière, peut-être de crainte. Comme moi, je pense que j'aurais prié et j'ai aussi un peu de la crainte. Hein. Daniel est conduit devant le roi. Et voilà ce que Daniel dit, toujours dans la Bible. « Il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile les secrets, qui t'a fait connaître ce qui arrivera dans l'avenir. Voici ton rêve et les visions que tu as eues sur ton lit. » Il lui explique la vision de la statue, etc. Je ne vais pas vous la lire, Mais à la fin de l'explication, qu'est-ce que fait le roi? Le roi Nebuchadnezzar tombe le visage contre terre, se prosterne devant Daniel. Le roi adresse la parole à Daniel et dit, c'est certain, c'est ton Dieu qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il dévoile les secrets puisque tu as pu dévoiler celui-ci. Waouh! Waouh! Daniel, loin de chez lui, emmené en exil, récompensé d'être à la table du roi, mis de côté, condamné à mort. Non, attends, je ne veux pas mourir tout de suite, je veux prier. Il prie, il reçoit la révélation, il sait que c'est le moment de partager. Il sait que son heure est venue. Seigneur, je vais mourir. Ou révèle-toi, il y a quelque chose qui va se passer pour le roi. Le secret de Daniel, pour moi, se nomme « en avant ». Tout en choisissant d'honorer son roi, il a refusé de se laisser entraîner dans la culture, par la culture dans laquelle il vivait. Depuis plusieurs mois, en 2020, le niveau d'anxiété, de peur, ne cesse d'augmenter dans notre société. J'ai envie de dire, comme Daniel, on n'est pas obligé de subir cette peur. C'est pas facile. Mais en réalité, je crois que Dieu, il ne veut pas nous faire peur. Il veut nous préparer à faire face. 2 Timothée 3.1 nous dit, « Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. » Ça, c'est Dieu qui nous dit, « Ben oui, on aura des temps difficiles, on y est. Mais je suis le Dieu Emmanuel. Je suis le Dieu avec. Je m'occupe de vous. Il est la meilleure nouvelle de tout l'univers. Il est avec nous. Il ne faut pas, mes amis, attendre que la chance tourne, que le virus s'arrête, que la vie reprenne. Levons-nous. La couleur de notre peau, notre sexe, nos origines, notre passé ne sont pas des freins pour Dieu. Dieu voit des possibilités. Il prend des initiatives. Il veut nous inviter avec. Il espère qu'on fera le premier pas. Il espère qu'on va oser se lever et Dieu fera le miracle. Pour ceux qui circulent dans l'Assomption, vous avez certainement remarqué le théâtre Hector Charlon. Et le théâtre Hector Charlon est en train de construire une nouvelle maison. C'est la maison Jacques Parizeau. Un lieu d'hébergement pour permettre aux artistes de composer leur spectacle, un lieu de retraite pour réfléchir. Yeah! J'aime ça. Monsieur Parizeau, ça a été le député de l'Assomption, ça a été notre ancien premier ministre du Québec. Et j'aimerais vous lire un extrait de son discours qu'il a fait aux étudiants à Montréal, à l'étudiant d'université. N'ayez pas peur de rêver. N'ayez pas peur de construire une société qui soit l'image de vos ambitions. Je sais que pour votre génération, les choses sont plus difficiles, mais je vous envie quand même. Je vous envie parce qu'il n'y a rien de plus exaltant dans la vie que les commencements. Il n'y a rien de plus emballant que les démarrages. Être à l'aube d'une carrière, concevoir un projet, le voir grandir, contrecarrer les embûches, inventer des solutions auxquelles personne n'avait pensé. Faire de ces solutions la base d'une richesse nouvelle. Les commencements. Imaginez dans votre tête, avec quelques amis, une idée neuve. Transformer cette idée en réalité. Voir cette réalité grandir, devenir plus grande que vous-même. N'ayez pas peur. C'est M. Parizeau. C'est pas Dieu. Mais quand même. Et si Dieu nous disait aussi, lève-toi, n'aie pas peur, je suis en train d'établir mon royaume. Lève-toi et brille. Alors pour terminer, cette parole nous encourage à ne pas nous fondre dans la masse dans ce monde. Comment pouvons-nous briller afin que le monde puisse effectivement voir Christ en nous? Abraham nous apprend à persévérer, à donner de notre temps, de notre argent, à sortir des sentiers connus, à exercer l'hospitalité, à honorer notre prochain. Naomi nous encourage de raconter comment Jésus a changé nos vies. C'est Albert Einstein qui a dit « Si tu veux que tes enfants soient intelligents, raconte-leur des histoires. Si tu veux qu'ils soient brillants, raconte-leur plus d'histoires. Et si tu veux que tes enfants soient brillants, raconte-leur encore davantage d'histoires. » Racontons ce que Jésus fait dans nos vies. Soyons témoins. Daniel est persuadé que la culture du ciel est plus forte que la culture diabolique. Il participe au changement des lois d'un pays. Il n'a pas honte d'être chrétien. Lève-toi et brille. De nuit, on voit la lune briller parce qu'elle est éclairée par le soleil et qu'elle reflète sa lumière. Nous sommes comme la lune. Je n'ai pas dit nous sommes dans la lune. Nous sommes comme la lune, nous reflétons la lumière de Dieu. Jésus a impacté nos vies de manière différente. Nous offrons l'opportunité de découvrir qui est Jésus en nous, en qui nous croyons. Que votre lumière brille aux yeux des hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. C'est Jésus qui l'a dit. Alors cette semaine, que Dieu nous aide à vivre dans l'amour, à devenir un modèle de paix, de patience autour de nous. Dieu a encore des révélations à partager. En choisissant de nous mettre sur la brèche, de demeurer dans sa présence, nous pouvons recevoir une parole qui peut sauver une vie. Ne négligeons pas nos temps avec Dieu, afin de devenir des personnes influentes, qui encouragent, qui donnent le sourire à quelqu'un, qui redonne la force de continuer de se battre. En conclusion, n'ayons pas peur de nous lever, de laisser la gloire de Dieu éclairer le monde au travers de nous pour des vies transformées et restaurées. Soyons audacieux. Et Audrey, Solène, tu peux montrer la dernière image? C'est Martin Luther King. Si tu ne peux pas voler, eh bien cours. Si tu ne peux pas courir, eh bien marche. Si tu ne peux pas marcher, eh bien nage. Mais par-dessus tout, reste en mouvement. Alors levons-nous et que la gloire de Dieu règne. Amen.